Bonjour à tous, moi je suis Erika Sanford, j'habite à Modane, voilà, je suis citoyenne sur Modane, j'interviens en tant que citoyenne, je veux dire, et j'interviens parce que voilà, j'ai des connaissances en hydrogéologie. Donc je vais essayer de vous communiquer voilà, quelques éléments importants en fait, pour comprendre comment des tunnels peuvent impacter des ressources en eau superficielle. Alors du coup, la petite diapo là, j'aime bien parce que c'est le tunnel sous la Manche, et c'était un projet il y a très longtemps avec une diligence du tunnel sous la Manche. Il faut savoir que dans le cas du tunnel sous la Manche, le tunnel est complètement étanche. Alors pourquoi il est étanche? Parce qu'il n'est pas très profond. En fait, on pense que c'est très profond, mais c'est qu'à une centaine de mètres de profondeur sous le niveau moyen de la mer. Donc comme c'est pas trop profond, il a été possible de l'étanchéifier complètement. Quand on va avoir un tunnel beaucoup plus profond, on ne va pas pouvoir étanchéifier et on va être obligé de drainer en fait, la montagne. Donc, je vais revenir là-dessus après, mais c'est juste pour commencer comme ça. Alors déjà, une petite chose assez importante, je trouve, c'est la répartition de l'eau sur Terre. Donc, vous voyez tous le schéma, oui. Alors déjà, l'eau salée représente 97% de l'eau sur Terre, et donc les eaux douces, qui sont si précieuses à la vie et à l'alimentation en eau, représentent déjà que 3%. Parmi ces 3%, on va avoir 68% qui sont dans les calottes glaciaires et également les glaciers. Ensuite, l'eau souterraine douce représente 30%. Et ensuite, l'eau de surface, elle, ne représente que 0,3%. Donc l'eau qu'on va voir tous les jours au quotidien, l'eau qui est dans nos cours d'eau, dans les lacs, etc., ne représente déjà que 0,3% de l'eau douce sur Terre. Ensuite, dans cette eau de surface, il y a déjà 98% qui sont dans les lacs et marais. Donc au final, ce qui reste dans les rivières ne représente que 2% de l'eau de surface. À peine 2000 km3 par rapport aux 10 500 000 km3 des eaux souterraines. Donc c'est pour vous donner un peu une proportion. Quand on a des inondations liées à des crues de rivières, à côté de ça, les eaux souterraines, le volume est bien, bien plus important. Voilà, on peut passer à la suite. Alors, l'eau souterraine, je pense que pour beaucoup, on a l'image en fait des galeries des spéléologues avec des rivières d'eau souterraine. Alors ça, oui, c'est une partie de l'eau souterraine sur Terre, mais ça représente en général autour de 25 à 30% de l'eau souterraine. Le reste de l'eau souterraine, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Enfin, c'est déjà compliqué ça, mais ça reste encore plus compliqué dans le reste de la roche qu'on trouve sur Terre. Donc voilà, on peut aussi dire que l'eau dans le sol, elle s'est stockée au bout de milliers et milliers d'années. Et en fait, elle se retrouve en fait au fond de nos montagnes, de nos vallées, etc., dans toutes les pores, tous les espaces libres de la roche, laissés par la roche. Donc quand on a un massif de sable, de grès, etc., tous les espaces libres de la roche en fait, vont être comblés d'eau. De la même façon, quand on a des roches fracturées, donc schisteuses, granitiques, etc., on va avoir dans toutes les failles de la roche de l'eau, en fait, qui s'est stockée au bout de milliers d'années. Donc voilà, donc là vous avez le schéma, et donc en fait voilà, le volume en fait de cette eau souterraine représente en fait quelques pourcents à quelques dizaines de pourcents du volume total de la roche. Mais au vu des volumes qu'on a, ça reste considérable. Donc voilà, donc là bon, j'ai un peu évoqué ça, mais là si vous voyez les petits schémas, donc c'est qu'on a trois catégories d'aquifères. Donc les aquifères c'est l'eau souterraine contenue dans les roches. Et donc on a les aquifères de socle fracturés, les aquifères karstiques, donc c'est le calcaire, donc les galeries des spéléologues, les aquifères poreux, donc c'est tout l'espace libre laissé par les sables, où l'eau va se stocker. Et donc dans le massif alpin, on va avoir des aquifères complexes de montagne qui vont regrouper en fait tous ces différents types d'aquifères, donc soit de failles, soit de porosité, ou même karstiques aussi, notamment dans les gypses. C'est pas... Le massif karstique, c'est d'abord les calcaires, mais on peut aussi dire que dans le gypse, on va avoir aussi un peu des galeries d'eau comme ça. Donc voilà, alors après, c'est une notion assez importante aussi, c'est le bassin versant hydrographique. Donc il faut imaginer un point dans lequel on va considérer que c'est l'exutoire. Par exemple, on va se situer à Modane. On va dire que le point de rejet de l'eau qui a, de la rivière Lard qui arrive à Modane. Donc là, vous voyez là, ce qui est marqué exutoire. On va dire que ça, c'est la ville de Modane, par exemple. Et donc tout ce qui est au-dessus, en fait, va alimenter cette rivière. Donc par le biais de tous les petits cours d'eau de montagne qui rejoignent cette rivière principale. Et tout ce qui va tomber sur une année, parce qu'on parle d'année hydrologique pour bien avoir un de fermé, pour savoir ce qui tombe sur une année, ce qui ressort. Donc tout ce qui tombe dans toute la zone qui est dans le pointillé rouge, là, c'est ce qu'on appelle le bassin versant hydrographique. Donc, tout ce qui tombe dans une année sur le sol va rejoindre petit à petit, soit par ruissellement, les cours d'eau, soit par infiltration, les eaux souterraines. Il faut savoir qu'en général, une nappe d'eau souterraine va alimenter la rivière. Et la rivière, c'est quelque part, c'est le drain de la montagne, c'est le drain de notre vallée. Alors, pas toujours, on peut aussi avoir des moments, en fait, où à des moments de l'année, on va avoir le contraire. Quand il y a beaucoup d'eau lors de fortes pluies, ça va être la rivière qui peut alimenter la nappe. Et par contre, en période de sécheresse, on va avoir le contraire, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'eau qui tombe depuis plusieurs mois, comme on a pu voir cet été, mais certaines rivières vont continuer à couler. Les rivières qui continuent à couler, c'est parce que pourquoi elles continuent à couler ? C'est parce que ce sont les eaux souterraines qui les alimentent. Donc voilà, on peut passer à la suite. Donc là, on voit sur ces schémas, justement, ce que je viens d'expliquer sur les eaux souterraines qui alimentent la rivière. Et ce qu'on voit qui est assez important, c'est les petits pointillés bleus sur le schéma ce schéma-ci. En fait, c'est ce qu'on appelle le niveau piézométrique de la rivière. Et ce niveau, en fait, comme vous voyez, il est plus haut que le niveau de la rivière, parce que justement, cette rivière, c'est le drain, en fait. Et donc, du coup, l'eau va s'infiltrer tout doucement et va aller vers son exutoire, la rivière. Et le schéma d'à côté, en fait, il montre au fil d'une année le débit de base, donc en bleu clair, qui est le débit, en fait, de la rivière, mais qui provient des eaux souterraines. Les pics que l'on voit, c'est le débit réel du cours d'eau, mais ces pics-là représentent, en fait, les pluies. Voilà, grosso modo. Donc on voit bien là que le gros de l'alimentation en eau d'une rivière, c'est bien son alimentation souterraine. Donc on va continuer. Alors ce schéma est un petit peu complexe, mais c'est... Bon, peut-être le passer si on n'a pas trop le temps. Bon, alors après, voilà. Donc après, je vais parler... Alors si, on revient dessus quand même. Non, parce que c'est pour parler des sources. Parce que donc voilà, j'ai parlé des rivières, mais les sources, en fait, pourquoi on a des sources dans les montagnes, etc. C'est parce qu'en fait, c'est aussi l'exutoire d'un bassin versant. Alors c'est un petit exutoire, et il va se faire dans le biais d'une dépression. Il y a un changement de géologie, donc là, comme on le voit ici, on a la source. La géologie change, puisque la partie jaune, en fait, ce sont les alluvions d'anciens lits de rivière. Et à ce changement de géologie, on va avoir une source, parce que peut-être que les alluvions sont un peu plus argileux, donc du coup, l'eau va sortir là, parce que c'est plus facile de sortir là que de continuer à s'infiltrer dans le sol. Et donc elle sort ici. Cette source, elle est alimentée de manière superficielle par les précipitations, mais elle est aussi alimentée en dessous par la nappe, on va dire un peu, qui est en soutien, en fait. C'est-à-dire que si un jour, on vient percer quelque chose en dessous, on risque, en fait, de supprimer ce soutien de la source. On va toujours avoir les eaux de la pluie, mais on ne va plus avoir cette alimentation qui soutenait en fait ce qu'on appelle l'étiage. Moi j'aime bien schématiser en prenant une baignoire. Alors c'est pas la réalité de ce qui se passe, mais ça permet d'avoir une idée de ce qui peut se passer. Donc vous prenez une baignoire, vous la remplissez à ras-bord. Le trop-plein en fait de la baignoire, c'est votre source. Vous avez un arrosoir et donc vous arrosez dans votre baignoire et l'eau qui sort en fait toute l'année dans vos sources, c'est l'eau de l'arrosoir, mais l'eau de la pluie qui va permettre à la baignoire de déborder. Si un jour on vient vider la bombe de trop plein, c'est comme si on creusait un tunnel en fait sous la montagne. Alors évidemment, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il peut y avoir des couches argileuses entre deux qui vont retenir l'eau. Enfin, il y a plein de choses. On peut aussi creuser dans des massifs qui ne vont pas être fracturés, et dans ces cas-là, on ne va pas avoir d'impact sur les eaux souterraines. Mais bon, voilà, toutes ces choses-là sont très complexes. Et du coup, c'est très difficile aussi de dire on va avoir une source qui va être impactée, l'autre ne va pas l'être, etc. Si on n'a pas fait une étude bien poussée sur chacune des ressources en eau, on ne pourra rien certifier. Donc, ça, la suite. Là, c'est juste pour expliquer un peu la réglementation au niveau de la protection des captages d'eau potable. Donc, un captage d'eau potable pour le protéger des pollutions superficielles par. Des polluants divers et variés, industriels, agricoles, etc., ou même l'assainissement qui est vétuste de certaines habitations, on va définir des périmètres autour de nos captages d'eau. Donc, captage d'eau, en fait, ça peut être source, ça peut être forage, ça peut même être prise d'eau en rivière, etc. Donc on protège en fait ces zones avec trois différents périmètres, un qui englobe juste la zone autour du captage, un autre plus grand qui va réglementer des activités, et puis un autre encore plus grand qui en général peut représenter le bassin versant hydrographique, enfin hydrogéologique de la source. Voilà, et je passe à la suite. Vas-y. Et donc, pour revenir à ces... Alors, le périmètre intermédiaire, celui qui est rapproché, donc celui-ci, il y a souvent beaucoup d'interdictions dedans. Et notamment, le ministère, en 2008, a sorti un document pour accompagner les collectivités, les acteurs de la protection de l'eau, en donnant quelques règles, en fait, c'est pas réglementaire, mais c'est quelques règles, qui dit en fait que dans les périmètres de protection rapprochés, devrait être systématiquement interdit ouverture ouverture de carrières, de galeries, etc. Et également au niveau des voies de communication, devraient être interdites les communications routières et ferroviaires. Donc interdiction de creusement de galeries, et voilà. Alors pourquoi ça? Parce qu'effectivement, si on creuse un tunnel ou une galerie sous notre bassin versant, on a un risque de tarir nos ressources en eau. Alors là, je vais essayer d'aller rapidement. C'est quelques exemples en fait de quelques tunnels qui ont eu des conséquences sur les ressources en eau, sans pour autant que ça ait eu un impact sur les populations, puisque par exemple, pour le tunnel du Mont-Blanc, ça a été creusé quasiment exclusivement sous des glaciers. Et donc, au niveau impact pour la population, il n'y a pas eu d'impact. Enfin, en tout cas, à ma connaissance, je n'ai pas eu de retour sur le fait que des sources aient tarie. Ça fait quelques années maintenant. Donc, sur ce tunnel de 11 km, on voit là les différentes arrivées d'eau qu'ils ont eues en fait, lors du creusement du tunnel. Donc, des arrivées d'eau entre, pour la plus basse, 10 litres à la seconde, et pour la plus importante, dans une zone fracturée qu'ils n'avaient pas du tout anticipé quand ils ont creusé, à plus d'un mètre cube à la seconde. C'est énorme, un mètre cube à la seconde, ça représente des volumes conséquents, ne serait-ce qu'au niveau sécurité lors du creusement du tunnel. Et donc après, par contre, une fois que plus gros de cette eau, enfin, une fois que la montagne finalement s'est globalement vidée de son eau, aujourd'hui encore, en régime stabilisé, on a 200 litres par seconde qui continuent à couler encore aujourd'hui. Cet exemple-là, je le trouvais aussi assez parlant, et puis quelque part, même si c'est il y a 100 ans, ça reste d'actualité, parce que donc là, ils ont eu une arrivée d'eau, ils ont eu plein d'arrivées d'eau, mais une qui était relativement importante, de 200 litres seconde. Aujourd'hui, elle continue à couler entre 20 et 80 litres seconde, donc 100 ans après, alimentée par les épisodes de pluie, ça continue à s'infiltrer. Peut-être encore un peu d'infiltration d'eau du massif, mais ça, je n'ai pas le détail. Mais ce qui était assez intéressant, c'était de savoir que lors du creusement de ce tunnel, 50 exploitations agricoles n'ont plus d'eau. Il y a plein de sources qui ont tari, et il n'y avait plus d'eau pour les exploitations agricoles. Et il a fallu 5 ans de recours juridique pour qu'enfin, ils admettent en fait que c'était lié au creusement du tunnel. Donc voilà, à méditer pour la suite. Après, dans les Alpes, donc sur les 260 km de tunnels ferroviaires dans les Alpes, on a une estimation, en fait, des tunnels qui sont déjà faits, une estimation de 2600 litres par seconde, ce qui représente 80 millions de mètres cubes par an, soit à peu près l'alimentation en eau de la ville de Lyon. L'estimation pour le Lyon-Turin, en régime stabilisé, donc pas au moment du creusement, elle est entre 600 à 1000 litres par seconde, ce qui représente, grosso modo, entre 20 et 30 millions de mètres cubes par an. Donc voilà, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est qu'en général, les montagnes sont pleines d'eau. Un tunnel de profondeur supérieure à une centaine de mètres ne peut pas être totalement étanché, et donc un drainage du massif montagneux est nécessaire. L'autre point important, c'est que lors du creusement, une partie de l'eau va s'échapper en très grande quantité. Ensuite, en régime stabilisé, on va toujours avoir de l'eau qui continue à couler depuis les tunnels qui ont été creusés. Mais l'eau qui s'est échappée lors du creusement est perdue pour des milliers d'années, et donc les sources tarives sont définitivement à l'échelle humaine. Je peux passer à la suite. Donc voilà, et puis les sources qui vont avoir perdu un peu leur débit au tout début peuvent continuer à avoir leur débit qui diminue jusqu'à tarir. Et voilà, et les ressources profondes qui ont mis des milliers d'années à se créer vont disparaître en quelques mois ou années. Les rivières peuvent également être impactées. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est difficile d'avoir une certitude dans ce contexte. Donc on ne peut pas à la fois dire que toutes les sources vont tarir, mais on ne peut pas non plus dire qu'il n'y aura aucun impact. Et donc dans ce cas de figure-là, pour moi, ce qui devrait prévaloir, c'est le principe de précaution. Et voilà, donc j'ai terminé. Merci.